Le masque et la plume. Bonsoir à tous et à un horaire, je le sais, tout à fait inhabituel. Mais je vous rassure, les primaires de la droite et du centre sont closes, ça c'est fait. Bienvenue donc au studio Sacha Guitry pour un masque et la plume tardif, mais consacré aux primaires de la littérature avec les Gaulois de la critique. J'ai nommé Olivia de Lamberterie, du L, Patricia Martin, du 6-9, du Week-end de France Inter, Jean-Louis Hésine de Philosophie Magazine, et avec Arnaud Vivian, le multicarte, Transfuge, Regard et la revue Charles. On parle ce soir de ma part de Gaulois, de Maguit Cherfi, des livres de Sylvain Tesson, Jim Harrison, Jonathan Coe et Johannes Farr, dans Le Courrier à propos du règne animal de Jean-Baptiste Delamo chez Gallimard. Philippe Alonso s'étonne que Nelly ignore ce qu'est un verra et lui conseille de se rendre comme chaque année au salon de l'agriculture. En revanche, merci à Arnaud et à Patricia pour leur regard bienveillant sur ce livre. François Battier regrette que Nelly, qui semble n'avoir jamais mis les pieds dans une cour de ferme, dénigre règne animal et remercie Patricia et Arnaud d'avoir défendu ce livre puissant. Jean-Baptiste Delamo est un authentique écrivain avec une véritable passion de la langue. Monique Tisser, qui habite une ancienne ferme où on élevait autrefois 500 cochons, nous dit la souffrance animale, vous la voyez là, parce que c'est à la mode, mais la souffrance des hommes, vous passez à côté. Vous trouvez que c'est normal, vraiment, d'être obligé de se pinter pour aller travailler. Je n'ai pas vraiment aimé le livre de Delamo, mais il a le mérite d'exister. On le lira dans tous ces bagnes où l'on élève des bêtes. Enfin, Michel Schafter nous écrit du Locle, en Suisse, où l'on sent, paraît-il, les effluves de la saucisse de Morteau. À propos de l'odorant règne animal, Jean-Louis Hésine a tenu à manifester son dégoût pour le ragoût en littérature. Cher Jean-Louis Hésine, ajoute Michel Schafter, vous auriez pu citer Louis-Ferdinand Céline dans le pavillon des Enrouilles, ces Thénardier modernes embarqués dans le voyage au bout de la nuit. Le ragoût dispense ses effluves depuis 50 ans. En entrant, écrit Céline, ça sentait chez les Enrouilles, en plus de la fumée, les cabinets et le ragoût. Cher Jean-Louis, vous en reprendrez bien un peu. Voilà, un conseil. Non, toujours allergique au ragoût.
La phrase de Céline parle d'elle-même.
Ma part de Gaulois, chez Actes Sud, c'est le récit autobiographique de Maguit Cherfi, le chanteur de Zebda, français d'origine algérienne, né, je vous le rappelle, en 1962. Il raconte son enfance dans une cité de Toulouse, ses études jusqu'au bac, le premier bac arabe, dit-il, de la cité. Les Colibés aussi, dont on l'accable dans le quartier des Isards, parce qu'il passe pour un intello. Il faut dire qu'il utilise des adverbes. Et il lit Maupassant et Flaubert, et il n'en finit pas de démontrer ce paradoxe, la trahison de s'élever quand on vient d'en bas, et la non-bienvenue quand on arrive dans les strates supérieures. Un livre qui a beaucoup de succès d'ailleurs et qui a reçu, je le précise, le prix du Parisien Magazine. Patricia.
Ah bah moi, c'est un livre qui m'a énormément secoué, qui est très tonique et en même temps, je me dis qu'il est très très sombre. Je ne sais pas ce qu'il en est de la réalité des cités maintenant. Je pense que c'est pire. En plus, la façon dont il l'écrit, c'est un discours très très frontal où justement les mots qui sont censés tout de même donner une enveloppe aux pensées, là, il y a pas du tout, il y a pas de figure de style. C'est sa géographie intérieure, c'est sa vision de la misère, parce que c'est quand même un livre très très personnel. C'est son parcours d'acceptation aussi. Il ne se fait le porte-parole de personne. Hein. C'est lui qui parle et qui montre comment il est impossible de réaliser ce grand écart entre deux identités impossibles. C'est-à-dire, il ne peut pas être français. D'ailleurs, sa mère lui dit, soit français, ne le deviens pas. Mais comment pourrait-il être français ou même le devenir, compte tenu, je ne sais pas, de l'attitude. Il y a une scène qui raconte, enfin, une anecdote, mais qui est très parlante. À un moment donné, sur les boîtes aux lettres, quand même, le nom pour nommer les gens, moi, j'aimerais pas que mon nom soit écorché. Eh bien, une fois, c'est écrit Senaoui, une fois, c'est écrit Sinaoui, et une autre fois, c'est écrit Senhaoui. Donc, quand on ne sait déjà pas nommer les gens, il est difficile que les personnes s'intègrent. Il n'est pas plus arabe parce que, bah, évidemment, la terre d'Algérie n'est pas la sienne. Il ne peut pas être véritablement un homme parce qu'il n'a pas non plus les codes de virilité propres aux Arabes aussi. Enfin bon, il se fait traiter très vite d'homosexuel parce qu'il lit Maupassant. Il se prend d'ailleurs des coups. Sa copine se fait prendre effectivement aussi à partie parce qu'elle lit 24 heures de la vie d'une femme de Zweig. Et puis, il y a la figure de la mère aussi que je trouve très ambiguë parce que c'est une mère probablement aimante, assez expansive, mais qui jette son dévolu sur ce fils-là. On ne sait pas pourquoi c'est lui, parce qu'il a aussi un frère aîné, ça pourrait être un autre. Et elle veut absolument qu'il ait le bac, et elle n'a de cesse. Et s'il ne l'avait pas eu, on se demande ce qui serait arrivé. Mais au fond, on se demande si elle l'aime, lui, tel qu'il est, son fils, ou une idée du fils intégré qu'elle voudrait avoir.
Olivia ?
Je suis tout à fait d'accord avec Patricia. Je trouve que le livre est tonique. Et en même temps, il est terrible.
Oui, mais il n'est pas désespérant.
Il n'est pas désespérant parce qu'il n'est pas sans doute désespéré et parce que la langue est géniale.
La langue est géniale,
vraiment,
je suis d'accord.
J'aime pas ce mot de truculent. En général, quand c'est truculent, ça me casse les pieds. Et là, je dois dire que j'ai été vraiment emportée par la langue. Après, écoute, il y a quand même cette scène à laquelle tu fais allusion, Patricia, qui est quand même démente. Parce que être un garçon, c'est être un ennemi et être un traître pour les siens. Mais être une fille, c'est n'avoir absolument aucun avenir. Et la malheureuse Bija, elle arrive un jour à l'école, elle est défigurée, ses amis ne la reconnaissent pas, et elle voudrait s'achever en cognant la tête contre les murs, et elle raconte donc que ce sont son père et son frère qui ont voulu lui arracher les yeux. Pourquoi ? Parce qu'elle avait lu Stefan Zweig. Alors en plus, elle est assez... elle aussi, elle est quand même tonique parce qu'elle dit
« Sacré caractère.
Je m'en fiche, je l'avais fini avant qu'il me tape dessus hein. ». Ce qui est quand même assez...
Ces choses terribles sont racontées toujours d'une manière assez drôle, en fait.
Oui, c'est ça qui sauve le propos. Et quant à la mère... Oui, Patricia, elle aime son fils.
Ah oui,
elle aime son fils. Tu peux pas en douter.
Non, elle l'aime.
Mais c'est un tyran.
Elle n'est jamais méchante. C'est pas. Attends.
Jamais. Elle le surveille comme du lait sur le feu pour qu'il réussisse envers et contre tout. Et elle y arrive. Je trouve que c'est un personnage absolument dément.
Arnaud.
D'abord, c'est un livre qui a eu de la chance, si l'on peut dire. C'est-à-dire que il arrive avec ce titre formidable, Ma part de Gaulois.
Le Gaulois, 15 jours après la déclaration de Sarkozy.
Sarkozy disant que... Et ce qui est très intéressant, c'est que d'une certaine manière, ils sont d'accord tous les deux. Parce que lui aussi, il dit que cette part de Gaulois, évidemment, il l'a, et que apprendre nos ancêtres les Gaulois, ça le dérange pas, parce qu'il explique que ses parents, l'Algérie pour lui, ça ne renvoie qu'à la guerre d'Algérie, dont il ne faut évidemment plus parler. C'est intéressant d'ailleurs, quand Mitterrand est élu en 81, c'est-à-dire la joie du fils et la peine du père, parce que lui se souvient du Mitterrand, ministre de l'Intérieur, qui a fait tuer des gens du FLN. Évidemment, c'est pas la même génération. Ce qui est fort, c'est que finalement, ce qu'il raconte, c'est qu'il s'est intégré avec la langue. C'est la langue, finalement, c'est la langue française qui lui a permis de s'intégrer. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est très lacanien, hein, je veux dire, c'est que ça passe par la langue, en un seul mot, comme l'écrivait Lacan, et c'est exactement ce qu'il raconte. Alors, c'est la langue via la littérature, parce que c'est le schéma de l'école. On apprend le français
via la littérature. Non, mais c'est un miracle, ça tient du miracle,
son
rapport à la langue.
C'est un rapport avec la langue. Il y a des choses très marrantes quand ils se font insulter avec trois mots par leurs amis, justement parce qu'ils sont en train de lire, ils leur répondent comme Molière, avec « Que diantre, que me dites-vous là ?»
Et un jour, il emploie l'adverbe « éventuellement ». Et il se prend...
Éventuellement, mais t'es plus à l'école, là, on n'est pas à l'école. Et donc, voilà, c'est ce rapport avec la langue qui fait un rapport politique très fort. Et d'une certaine manière, il faut bien reconnaître que Sarkozy a dit beaucoup de choses dans cette campagne des primaires, mais ces histoires de nos ancêtres, les Gaulois, n'est pas la chose la plus bête qu'il ait pu dire.
Vous êtes tous des fans de Zebda, d'ailleurs, entre parenthèses.
Ah oui,
j'adore.
Ah oui.
Ouais.
Jean-Louis qui va à tous les concerts de Zebda. Je sais que
Sûrement. Sur la langue, justement, chère fille, il a une très belle phrase. Tu m'y fais penser, Arnaud. Il dit « La langue, c'est l'ennemi de ceux qui ne l'ont pas ». En parlant de ses copains de la cité. Ouais. Bien sûr, lui, il l'a. Alors, pour mettre un bémol à votre commentaire sur le livre, que j'ai adoré aussi.
Ah bon, un bémol, alors.
Si, tout de même, toutefois. Non. Parce que la langue, ça peut être aussi l'ennemi de ceux qui l'ont. Et justement, il est quelquefois, c'est vrai que ça trucule, ça trucule un chouïa
du verbe parfois. Truculer.
Ouais, 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 ça trucule. Et notamment, tu disais tout à l'heure, Jérôme, que puisqu'il passait pour un intello dans la cité, parce qu'il employait des adverbes. Mais l'adverbe aussi, c'est l'ennemi de l'écrivain aussi quelque part.
Ah oui.
Le moins d'adverbes possible, c'est une chose qu'il faut absolument faire. Et comme lui ne s'en prive pas, et bien du coup, il ne se délivre pas de cette émotion qui l'étreint de la première à la dernière page et qui nous emporte aussi. Mais en même temps, l'émotion dans une confession intime, c'est une patate chaude. Il faut absolument que tu t'en débarrasses sur quelqu'un. Et sur qui d'autre que le lecteur? Ça, il ne le fait pas. Je le regrette quelquefois, c'est un très bon livre, oui, c'est sûr.
Enfin, je trouve que les masques de la seconde partie de la saison sont quand même de plus en plus positifs pour les livres. Hein, là,
tu penses qu'on est malade?
Non, mais c'est bien. Ma part de Gaulois, le bon livre de Maggie Cherfi est publié chez Actes Sud. Sur les chemins noirs, le nouveau récit de voyage de Sylvain Tesson chez Gallimard, et en même temps il faut le savoir, réchappé d'un accident qui a failli le condamner au fauteuil roulant, puisqu'il est tombé d'un toit où il faisait le pitre à Chamonix. Il faut dire que le soir était un peu trop arrosé, et en même temps donc il a perdu sa mère, et sur son lit d'hôpital il s'est promis de traverser la France à pied. S'il s'en sortait, il s'en est sorti, même s'il a conservé des séquelles, une oreille sourde, une paralysie faciale, des douleurs au dos. Il est donc parti, en marche, comme dirait Macron, mais loin des chemins balisés.
Loin des chemins macroniques.
Entre le 24 août et le 8 novembre 2015, des Alpes du Sud au Cotentin, via les Cévennes, le Cantal, la Mayenne, filant la Diagonale avec une carte IGN. Et puis avec des livres, comme toujours, notamment Pessoa et Giono, et sur ces chemins noirs d'une France, là je le cite, « ombreuse, épargnée par l'aménagement », il est parfois accompagné par des copains qui sont écrivains ou photographes. Est-ce que vous avez cheminé avec lui, Arnaud ?
Ah oui, oui, vraiment. C'est difficile d'utiliser l'adjectif nietzschéen pour un livre, mais ça, c'est vraiment un livre nietzschéen. C'est-à-dire que un livre avec une volonté de puissance absolument incroyable. C'est Nietzsche marchait beaucoup, lui aussi. Il y a peut-être ce rapport-là. Les chemins sont vraiment noirs. C'est-à-dire qu'il utilise les chemins noirs, c'est-à-dire des chemins qui ne sont pas répertoriés, qui ne sont pas cartographiés. Ce qu'il appelle les chemins noirs, c'est un terme technique, mais en l'occurrence, la noirceur, c'est encore autre chose. Il y a un véritable chemin de croix dans cette trajectoire. Et tu parlais de sa surdité, du fait qu'il est défiguré.
Il n'est pas défiguré, non.
Ah si, c'est ce qu'il écrit lui. Il fait peur aux enfants.
Il dit qu'il fait peur aux chiens. Hein.
Voilà, il fait peur aux chiens, il fait peur aux enfants, je crois que c'est ce qu'il écrit à un moment.
Et qu'il a un visage à la Picasso. Oui.
Mais surtout, à un moment, il a... Et d'ailleurs, c'est magnifique, parce que quand ça arrive... Le lecteur est totalement surpris, et d'ailleurs ça arrive et ça disparaît presque aussitôt, ce qui est totalement extraordinaire de point de vue du récit. Il a une crise d'épilepsie à un moment qui fait qu'il interrompt cette trajectoire à pied pour être hospitalisé quand même 24 heures, et qui reprend sa marche. C'est-à-dire c'est quand même 40 km par jour. Il finit, après il a des insomnies, c'est-à-dire que non seulement il marche toute la journée, mais il a des insomnies, et en même temps il y a dans ce livre une beauté, d'abord parce que c'est un livre qui fait ce que les autres ne font plus, c'est qu'il décrit. Il décrit les paysages, et c'est quand même très difficile, c'est une traversée de la France, les paysages changent, il y a ce moment très beau où il est dans un café, et le gars lui dit « Vous allez où ?»« Ah là, vous êtes bientôt arrivé à la zone du granit. » Les changements géologiques, ils sont là, les changements de région, il y a ce passage extrêmement drôle, parce qu'en plus, parmi tous ces malheurs, il n'a plus le droit de boire. Il n'a plus le droit de boire une seule goutte d'alcool.
Bah ouais, il est tombé à cause de ça.
Voilà, il carbure. C'est pas parce qu'il est tombé à cause de ça qu'il n'a plus le droit d'en boire, à mon avis. Oui. Il y a une raison médicale. C'est pas une question morale, c'est une question physique. Et toujours est-il qu'il carbure au Viandox, et donc il rentre dans une auberge. C'est quasiment son petit plaisir du soir.
C'est dégueulasse.
Le Viandox.
C'est dégueulasse. Quand il fait très froid et tout, le Viandox, c'est un bonheur.
Toujours est-il qu'il demande un Viandox.
Tu parles comme si tu vivais à la montagne.
On est en Mayenne. Et elle lui dit, mais c'est quoi ça? Alors il dit, c'est un bouillon. J'en ai bu un hier. Et vous étiez où hier? Dans la Sarthe. Il me dit, ça m'étonne pas d'eux, dit l'aubergiste. C'est vraiment la France, là. On voit justement le changement. Et je trouve que c'est un livre en plus où il s'interroge lui-même sur cette, parce que c'est écrivain voyageur, évidemment. C'est ça, comme ça qu'il s'est fait connaître. Où il se demande s'il va continuer à voyager, où
où il parle d'un jardin d'un naturaliste dans lequel celui-ci a passé 30 ans à observer la vie des insectes, oui, en se demandant si ce microcosme finalement est pas plus intéressant que le macrocosme
qu'il était en train de... Je constate que tu as aimé ce livre.
Ça se voit, Jean-Louis.
Ça se voit, oui. Moi, j'ai adoré aussi, franchement. C'est un homme en miettes, dans une campagne en miettes aussi, parce que la France, c'est pas des sentiers battus, en plus, par lesquels il s'en va.
C'est des
sentiers, justement, qu'ils n'ont pas battus. C'est ceux que des rapports de l'administration de Jean-Marc Ayrault, il y a quelques années. Jean-Marc Ayrault,
oui, c'est l'aménagement du territoire.
Jean-Marc Ayrault, période Anatole France, il écrit. Et puis ensuite, Manuel Valls, période Offenbach. On rassemblait cette France ténébreuse, noire, sauvage, embroussaillée, en jachère.
Enfin, on se calme.
Dans le concept d'hyper-ruralité. Non mais attends, c'est de la politique contemporaine, hein, c'est de la politique réelle. Ils ont bâti un concept qui est l'hyper-ruralité. Donc il a voulu absolument ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est génial. Pourquoi ? Parce que c'est un écrivain qui débroussaille son sujet au fur et à mesure qu'il avance dans son
sujet.
Mais si, absolument. Non. Parce que cette diagonale depuis le sud-est
jusqu'à la Manche... Qui ne passe pas par Porto-Combo, d'ailleurs.
Non, mais il l'évite d'assez peu, parce que... Mais en fait, dans la Manche, très symboliquement, il arrive quand même d'une région qui a beaucoup souffert. Bon. Donc, moi, je pense qu'il...
J'aime aussi.
Ah oui, j'ai adoré, franchement.
C'est bon.
Il fait partie de la confrérie des grands flâneurs.
Olivia.
Jacques Lacarrière.
Moi, je vais mettre fin à cette émission de Bisounours.
Bon, c'est un peu Bisounours. Hein.
Là, parce que j'adore tes sons, j'aime le projet du livre, j'adore les paysages qu'il décrit, et j'aime le courage physique dont il fait preuve. Mais il y a quand même un truc, d'abord un peu grandiloquent dans ce livre, excusez-moi. Son projet, c'est de raconter les événements sans aucun filtre, dit-il, ni le filtre du souvenir, ni le filtre des références. Or... Attendez, il voit un paysan, il le décrit pas, et il dit « Oh, un personnage de Giono !» Et puis bien sûr, le paysan est taiseux, et c'est encore plus magnifique. Il voit une vache, « Oh, une vache !» Il tombe en pamoison, mais quand on se promène en France, il y a beaucoup de vaches. Hein. Il voit...
Surtout sur les chemins noirs.
Voilà, il voit un homme qui est visiblement saoul. Il dit « Oh, c'est magnifique, un russe, c'est charmant !» Non, c'est pas charmant, c'est un mec qui est bourré, et c'est sûrement pas charmant, et encore moins pour
lui qui a bien connu faire, il trouve ça charmant, la depuis qu'il n'a plus le droit de boire.
Je trouve que c'est un livre en fait qui n'est pas très pertinent. Et le fait d'opposer systématiquement le rapport administratif qui voudrait qu'on mette le Wi-Fi dans tous ces territoires qui sont pour le moment oubliés, et il oppose à cette volonté de progrès la beauté d'essuyer sa bouche.
C'est pas Aurélien Bélanger non plus comme
non,
projet.
Non, mais il y a
là,
un côté, excuse-moi.
À t'entendre, on dirait un livre d'Aurélien Bélanger.
Non, excuse-moi.
C'est pas du tout ça.
Il y a un peu le tesson de la Sibérie.
Ouais, je suis désolée.
Pas tant que ça, justement.
Qu'est-ce qu'on va les emmerder à leur mettre le Wi-Fi alors que c'est tellement beau de s'essuyer la bouche avec son veston quand on a trop bu.
Il y a quelque chose à laquelle tu n'as pas été sensible, visiblement.
Il y a un peu de l'herbe.
Non, non, mais en fait, il cherche.
Excusez-moi, la première gorgée de bière, là, c'est la dernière gorgée de vin.
En même temps, il débroussaille son sujet.
Non, non,
on ne peut pas dire le contraire.
Je proteste. Il cherche à se cacher. Parce que ça, c'est la France cachée, sans blague. C'est la France cachée. Elle ne se montre jamais. Tu la vois pas, celle-là.
Et alors ?
Et alors, lui, tout cassé qu'il est, c'est ça, le non-dit, le fil et son sujet. C'est comment est-ce que je pourrais disparaître ? Il cherche un endroit où disparaître.
Mais j'aime bien ça.
D'ailleurs, il cite après.
Et la fin n'est pas rassurante, d'ailleurs.
Non, pas du tout. Qu'il prenne la fuite.
Dissimule ta vie. Il répète ça après Épicure.
Et je trouve ça beau. Et j'aime bien qu'il fuit les gens qui te téléphonent tout le temps en disant « faut qu'on se voit ». Ça, je trouve que c'est juste. Mais je trouve que les réflexions sur le progrès sont un peu courtes.
Patricia.
Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est le livre du dénuement, en fait. C'est-à-dire que oui, tu peux vivre avec trois fois rien, avec un sac à l'épaule, tu peux dormir dehors à la Belle Étoile.
J'en sais quelque chose.
Cette obsession qu'il a, parce qu'il est totalement obsessionnel, ce type, en fait, il est invivable. C'est son obsession du mouvement. Il fait quand même, tu disais, 40 km par jour, mais il fait 4 km, les 4 premiers kilomètres. Il en bave, mais il a horriblement mal au dos. Il faut quand même savoir que c'est un homme totalement cassé, qui se force à ça. Enfin, moi, je trouve que c'est une prouesse. Les
l'évocation de sa mère. Alors, à un moment donné, il dit qu'elle est morte comme elle a vécu en faisant faux bond. On n'en saura pas plus, on ne sait pas ce que c'est, mais à mon avis, c'est quand même très lourd de sens. Et puis, c'est un chemin intérieur. C'est un chemin qu'il invente lui-même. C'est un chemin qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Mais si, c'est son chemin intérieur qu'il pourrait faire aussi bien en chambre, mais il ne le peut pas parce qu'il veut absolument marcher. Et puis, le côté aussi, moi, je trouve chapeau. Il n'a pas un mot pour se plaindre. Il a quand même tout pour dire flûte, je reviens de loin. Et bien, au contraire, il s'émerveille du fait qu'on ne lui ait rien reproché et qu'on l'ait sauvé. C'est-à-dire qu'il est quand même, il s'est cassé la figure bien parce qu'il était ivre-mort. On aurait pu lui dire ça à l'hôpital. Et c'est aussi grâce à un système de santé qu'il a pu, ça aussi, il rend hommage.
Et le Viandox. Sur les chemins noirs, c'est un livre de Sylvain Tesson. C'est chez Gallimard, le vieux saltimbanque. Chez Flammarion, traduit par Brice Mathieu Sand, c'est le livre posthume de Jim Harrison, l'écrivain américain de légende d'automne, et de Dalva, qui est mort le 26 mars dernier. Il avait 78 ans, il est mort dans son cher Arizona, après avoir beaucoup écrit, pêché, bu, prié, pas mal forniqué. Et heureusement, il est mort avant l'élection de Trump, ça il ne l'aura pas vu. Prolongement de ses mémoires qui s'appelait En marge. Ce vieux saltimbanque, donc, est un autoportrait. On ne peut pas dire qu'on apprenne beaucoup de choses, qu'on ne sache déjà sur lui. En 8 chapitres où on retrouve donc le dévoreur de femmes, l'amateur d'alcool fort et aussi l'amoureux de la France, où la vente de ses livres lui a sauvé la mise. Encore un livre que vous avez aimé, j'imagine, Jean-Louis.
Ah oui, j'ai adoré.
Alors, voilà. Qu'est-ce qui se passe ce soir? En fait, il ne faut pas changer d'horaire, hein, parce que vous aimez tout.
Non, mais je m'attendais à la.
Mauvais livre à lire.
Je m'attendais à la confession d'un vieillard indigne, et je vois un écrivain très comme il faut, d'une sagesse. On devrait. La corporation devrait ériger une statue à cet homme-là. Parce que franchement, il défend.
Tu l'as pas lu.
Quelle conscience professionnelle pour un écrivain.
Tu l'as lu, le livre?
Oui, je l'ai lu. Par exemple. À la page 30, il y a une scène assez remarquable où il démontre sa très grande conscience professionnelle comme écrivain. C'est-à-dire qu'il est surpris par sa femme en flagrant délit d'adultère. Elle le menace d'un pistolet.
Ah,
c'est une scène. Il a cette réplique absolument fabuleuse. Ne tire pas, chérie. Enfin, je sais pas s'il dit chérie d'ailleurs.
Non, il dit pas chérie.
Ne tire pas, je t'en prie. Si je ne vais pas au bout de ce scénario, tu perds 100 000 dollars. Ça, franchement. On devrait ériger une statue. Oui.
Sauf que je pense que c'est faux.
Tu penses que c'est faux?
Oui.
Moi, je pense que c'est un.
Ça t'a donné des idées.
C'est très raisonnable. Non, mais c'est tellement comme il faut. Parce que c'est vrai que c'est très comme il faut. Il n'y a pas de provocation.
Enfin.
Je trouve que, par exemple.
Enfin, il n'a pas une vie comme il faut. Il n'a pas une vie comme tout le monde.
Oui, mais en même temps, je veux dire, si tu compares avec. À côté de lui, Jean d'Ormesson pour aller dans les arts.
Ah oui, c'est pas du tout le style de Jean d'Ormesson.
Non, mais justement, non, mais...
pas du tout.
Le très poli Jean d'Ormesson passerait à côté pour Tati Daniel, quoi. Beaucoup de cruauté, de méchanceté, de machin. Lui, pas du tout. C'est un humaniste notoire, achevé, complet. Enfin, c'est absolument. J'ai trouvé ça très plaisant. Alors, il adore la France.
Les chats.
Oui, les chats. Enfin, je m'attendais à autre chose.
Écoute, moi, je suis ravi que vous soyez si content.
Et d'une modestie, alors.
Il est écrit roman sur la couverture.
Ça,
bon, alors.
Ça, c'est
vraiment tout
c'est
un. C'est
devenu insupportable, ça, maintenant.
Et d'ailleurs, ça serait pas un très bon roman parce que.
Il n'y a plus de roman.
La construction n'est pas très intéressante. Ce qui est très touchant et vraiment bouleversant, c'est ce qu'il dit de lui. Alors, effectivement, parfois, c'est très drôle, comme cette scène que tu n'as pas finie, où sa femme lui tire dessus, puisqu'il est avec cette jeune fille. Après, la jeune fille, ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle a eu les fesses couvertes de piqûres de moustiques. Elle est partie à moitié nue. Et elle le fait chanter.
Oui, ça se passe dans les bois.
Lui, ça l'excite plutôt qu'elle ait les fesses pleines de piqûres de
moustiques. C'était un homme des bois, lui.
Et du coup, pour lui faire payer cette petite scène, elle lui fait pas les devoirs et elle lui dit « Mets-moi des A, sinon j'irai te dénoncer comme pervers sexuel au directeur.
Ah, » oui.
Ce qui est très beau, ce que je savais moins, c'est comme il a lutté toute sa vie contre la dépression. Il raconte qu'à un moment, il a même eu l'envie de se suicider. Il va sur un pont à New York. Et puis, tout de suite après, à la Jim Harrison, il a toujours une manière de faire des pirouettes et il dit « Mais finalement, je me suis aperçu que quand j'avais des pensées suicidaires, elles étaient toujours interrompues par le fait que je pensais à un plat de spaghettis avec de la viande et que la faim était est plus forte que tout. Et puis, il y a une théorie très belle qu'il appelle la théorie de l'aperçu. Vous savez, ces petits moments dans la vie où on a l'impression que la réalité se scinde en deux, se déchire, et on voit tout d'un coup vraiment le sens de l'existence. Cette sorte d'épiphanie, il a une manière, je trouve, très très belle de les raconter. Je trouve, moi, ça m'a arraché on lit le livre. On est vraiment tout le temps ému. Moi, j'ai pas lu Jean-Baptiste Delamo, donc je suis tout
Règne
à fait...
Animal. Je vous rappelle que Règne Animal, c'était donc l'histoire d'une porcherie.
Il y a des cochons aussi.
Il y a beaucoup de cochons. Là, c'est très sympathique. Ça m'a rendu les cochons très très sympathiques. On a envie d'en adopter.
Le cochon n'est pas antipathique.
Non, le cochon est sympathique.
On ne peut pas le fréquenter tous les jours, mais il n'est pas antipathique.
Très attachant, un cochon, tu sais.
Non, mais c'est vrai. C'est ce qu'il dit, lui, en tout cas.
Ah oui, oui.
Ça te reconnaît, ça peut...
Non, mais je vois que tu es une pro, Arnaud.
Ah ouais, je trouve que ce livre est un chef-d'œuvre absolu, peut-être un des plus beaux livres, en tout cas, peut-être même
le plus beau livre du Persil,
de la rentrée littéraire. Non, mais je trouve que tout le monde est un peu passé à côté. Bon, je me souviens, adolescent, je me revois en train de lire Dalva, certes, mais là, ce qui est très beau, et d'ailleurs, il le raconte en préface, c'est qu'il avait déjà écrit ses mémoires à 60 ans. Bon, là, de toute évidence, il a senti que c'était son dernier livre, c'est aussi ça qui
était. Il pensait mourir avant.
Il a même demandé l'autorisation à sa famille, à ses deux filles,
qui lui ont dit non,
surtout ne fais pas ça,
il est mort avec un crayon à la main,
c'est pas du tout, et d'ailleurs il le dit, en français ils ont mis roman parce qu'ils sont un peu crétins, mais il le dit, c'est une novella, c'est un genre dans lequel il a excellé, et en fait on comprend, il explique très bien pourquoi.
Mais il faut dire que les mémoires en marge étaient quand même beaucoup plus volumineux,
une des raisons.
Là, c'est un livre de 150 pages, c'est un vrai livre de funambule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure, on marche sur un fil, que celui mais il y a une espèce de, à la fois de légèreté et de profondeur, parce que il raconte aussi un destin, une vie d'écrivain, mais avec une légèreté balourde. On est obligé de faire un oxymore pour montrer comment il écrit.
L'écrivain fauché, parce qu'il a.
Il y a une chose qu'on se dit, quand même, on est quand même dans une émotion parce qu'on sait que c'est le dernier livre, donc on se dit, mais quelle va être la dernière phrase de ce dernier livre? Et alors là, la dernière phrase, moi je l'ai relu 15 fois, je me suis dit, mais quelle élégance. On va pas la dire, mais quelle élégance de terminer là-dessus.
Non,
là-dessus,
la lit pas. Mais ça fait
magnifique.
Bah, à la
surtout,
fois, tu dis que
non, mais
magnifique.
Surtout après avoir raconté l'histoire de la jeune fille et du flingue, il faut la lire, cette dernière phrase. Et là, vous vous dites, quelle élégance, quel homme, quoi. Bravo.
Ouais. Patricia.
Sur sa femme, parce qu'elle est quand même intimement liée à sa vie. Non, mais c'est ce qui est extraordinaire, c'est que moi, j'avais adoré il y a des années, il avait écrit Wolf, mémoire fictif, et on se rend compte que ce qu'il raconte là, évidemment avec l'expérience et avec le recul de sa vie, c'est un peu la même chose et c'est un peu la même histoire d'un petit garçon parce qu'il est resté au cœur brisé. Enfin, quand on le voit sur les photos et tout, il sourit jamais, il fait...
Oh, mais là, il faut dire qu'il a une gueule.
Il a une gueule. Il a une très belle gueule, mais je veux dire, il est plutôt sévère.
Magnifique. Qu'est-ce que vous avez...
Il a une vraie gueule de paysan.
Il avait une trogne d'ours.
C'est un plan
qui louchait
en plus.
Avec le côté...
Je sais pas, il avait qu'un œil.
Il était magnifique.
Magnifique. Non, il n'était pas magnifique.
Moi, j'étais amoureuse de lui, bien sûr. Je comprends toutes les filles dans le livre.
Il était pas beau.
Je suis pas perverse. Il est irrésistible.
Parce que t'as envie de te faire piquer les fesses,
dans la
forêt.
Cette façon justement d'ours est très paysanne,
une laideur sublime.
Oh, mais laisse-moi parler. Servir de la psychologie. Il veut surtout pas. Il est comme un moteur bridé. En fait,
c'est beau ce que tu dis.
Mais si. Et en fait,
c'est un peu un moteur brisé.
Pas brisé. Et il parle du fait qu'il s'est.
Il n'a pas changé la courroie.
Qu'il est devenu, qu'il a perdu un œil, mais il en parle comme ça. Il parle de la mort de son père et de sa sœur, qui a quand même été un drame absolu dans sa vie, en deux lignes. Et en revanche, il parle de Darling, la grosse cochonne, qui m'ébat. Et après, il y a la mort du petit cochon. Et il est très, très triste. Et je trouve ça complètement décalé, en même temps merveilleux. À un moment donné, il parle d'une guêpe. Qui est prise, dans un rideau, il libère la guêpe. Mais je vous jure, on dirait que c'est comme quand Marguerite Duras voyait une mouche sur un mur et qu'elle se mettait à pleurer, à écrire sur cette mouche.
Elle partait un peu du boulot aussi quand elle elle chialait à cause d'une mouche.
Il y a une phrase sublime pour la mort de son père et de sa sœur. Il dit « Si l'horreur existe sur Terre, on peut bien suivre les penchants de son cœur ». dans la vie terrestre et faire ce qu'on veut, et c'est ce qui fait qu'il se met à écrire.
Et qu'il se met à écrire et buvons aussi, et parce que l'alcool et l'écriture, ça va aussi de pair.
Magnifiquement traduit par Brice Mathieu-San, qui a été son fidèle traducteur depuis, et qui, ça a dû être très fort aussi.
Il y a un détail qu'on n'a pas donné, mais qui est quand même essentiel, c'est que c'est écrit, il l'écrit à la
troisième personne. Et ça marche formidablement bien.
C'est formidable, parce qu'il a la distance juste pour l'autodérision.
Le vieux saltimbanque, le livre posthume de Jim Harrison, et c'est chez Flammarion. On ne présente plus le prolif.
D'ailleurs, il remercie Lopes à un moment donné. Il remercie Lopes de lui avoir offert le Ritz.
Absolument.
J'étais au journal à cette époque, j'ai pas le souvenir, mais bon.
Et il a mangé des œufs dont le prix. Il mange des œufs à la coque ou je sais pas quoi pour le petit déjeuner dont le prix le renverse parce que je sais pas combien ça coûte. Mais à Lopes, on a beaucoup d'argent.
Encore une fois, il devait beaucoup à la France, qui était un pays de lecteurs.
Il le dit d'ailleurs. Aux États-Unis, il n'était pas lu.
Ce qui est très étrange, c'est qu'il n'ait jamais été vraiment lu dans son pays.
Dans son pays,
ça reste un mystère. Je disais donc qu'on ne présente plus le prolifique Johann Sfarr, le bédéiste du Chant
maintenant
du
qu'ils
Ravin.
Ont un vieux saltimbanque à la présidence.
Non, mais c'est pas vrai.
Oui, pardon, Jérôme.
Je parlais de Johann Sfarr, l'auteur du Chat du Rabbin, le réalisateur de Gainsbourg, Vie héroïque, l'illustrateur, le romancier et aujourd'hui le mémorialiste dans Comment tu parles de ton père. Je suis sûr, j'ai oublié qu'il y a marqué roman dessus. Non, il n'y a pas marqué roman.
Non,
sûrement. Ah bah, c'est un miracle.
Non.
Donc, Comment tu parles de ton père, c'est chez Albin Michel. Et là, Johann Sfarr, dont la mère est morte quand il avait 3 ans, se souvient de son papa, né, là je le cite, l'année où tonton Adolphe est devenu chancelier, 1933, c'est l'année où pour la première fois on a découvert le monstre du Loch Ness, c'est l'année enfin où sortait King Kong sur les écrans, mon père, c'est pas rien. Alors il se prénommait André, il était séfarade, niçois, avocat et beau à la de long, c'est l'expression qu'il utilise.
Et Sacha Distel aussi.
Et Sacha Distel, oui. Il paraît que c'est ça, devenir adulte, dit à la fin Johann Sfarr. Le père meurt, on n'a plus d'autre ennemi que soi-même. Alors c'est bref, hein, il faut dire, c'est sans pathos, c'est léger, et c'est un livre que vous avez beaucoup aimé, j'imagine, Olivia.
Mais oui, parce que je trouve que c'est le premier livre sans images intéressant de Sfarr. Avant, quand il écrivait des romans, il faisait le malin, il fallait qu'il fasse croire qu'il avait tout lu, qu'il était un écrivain. Là, c'est d'une simplicité inouïe, et c'est l'histoire d'un homme qui...
Un peu trop léger, non ? Vous trouvez pas que c'est un peu...
Ah bah non, c'est un peu comme Cher fils, c'est-à-dire qu'il raconte de manière très légère une histoire quand même très terrible, puisque la mort de son père, quand il a 40 ans, chose plutôt banale, lui rappelle la mort de sa mère quand il avait 3 ans et demi, ce qui est évidemment pas du tout banal, et surtout la manière dont on ne lui a pas dit, puisqu'on lui a dit « ta mère est partie en voyage ». Et je trouve que toute l'enfance est racontée vraiment avec une sorte de réalisme enfantin, un peu comme dans le livre de Gaël Faye. C'est-à-dire qu'il raconte uniquement les sensations de l'enfance.
Petit pays qui, depuis notre dernière émission, a reçu le Goncourt des lycéens.
Et je trouve que c'est comme Gaël Faye, ça sonne juste. Parce que, par exemple, quand sa mère meurt, on l'envoie chez des amis le temps d'enterrer la malheureuse. Et quand son père revient, il mange du jambon. Et son père arrive... et devrait l'engueuler de manger du jambon. Et son père ne dit rien, et c'est là qu'il se rend
double
compte
ration de frites.
Qu'il se passe quelque chose de grave. Et je trouve que cette manière de raconter vraiment à hauteur d'enfant est très réussie. Puis il y a des scènes, quand le grand-père le prend sur ses genoux au bout de 2 ans et demi, et lui dit « Mon chéri, j'ai un truc à te dire, ta mère est morte ». Et en plus, c'est intéressant parce que c'est un livre qui explique pourquoi il dessine tout le temps. Parce que c'était le petit garçon qui dessinait en attendant que sa mère revienne de voyage. Oui. Et quand il dessinait, il avait l'impression... On les
qu'on évoque encore c'est le Jonathan Coe. Arnaud ?
Écoutez, c'est un livre qui dit la vérité, d'abord. Il dit comment il a été fait. C'est-à-dire que Johann Sfarr, après la mort de son père, a écrit 70 pages. Mm-hmm. Et elles sont, mais alors, formidables. Mm-hmm. Elles sont drôles. Elles sont émouvantes. Et puis, 70 pages, c'était quand même un peu court. Donc, son éditrice lui a demandé d'en faire 70 de plus. Mm-hmm. Ce qu'il a fait, au bout d'un an, hein, pas tout de suite. Et là, elles sont moins bien. Faut être clair, les 70 autres pages sont beaucoup moins bien. Mais les 70 premières sont vraiment formidables parce que, d'abord, non seulement il perd son père, mais il est sur le tournage d'un film, ça va être celui qu'il a adapté de Sébastien Japrisot, je pense, et il est en Grèce, et il tombe aveugle, et il ne voit plus rien, il va voir un médecin grec, c'est des drôleries.
C'est très très drôle.
Un ophtalmo grec, évidemment il ne sait pas parler le grec, c'est hilarant, on retrouve vraiment le Johann Sfarr du Chat du Rabbin, pour le coup. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Johann Sfarr, c'est que dans cette période de
communautarisme, d'intégrisme. Voilà quelqu'un qui a une vision de son judaïsme, mais que je trouve absolument magnifique, épatante et sobre.
Allez, un mot de Jean-Louis, de Patricia. Jean-Louis.
Oui, ce qui m'a beaucoup ému, moi, c'est qu'il se recherche évidemment un père aussi à travers ses récits, ses modèles. Donc c'est Gainsbourg, c'est Brassens, c'est Saint-Ex, Gary, Japrisot, que tu citais, et Hugo Pratt. Hugo Pratt de l'époque Pif Gadget, et comme je l'ai connu à cette époque, et que j'avais les mains...
C'est l'époque où tu étais chez Mickey, non? C'est pas
ouais,
ça, non?
Pif Gadget.
Non, mais t'étais à Pif,
j'avais les planches de Corto Maltese toutes les semaines dans les mains. Et j'ai bien connu Hugo Pratt. Et la façon, le portrait qu'il embrosse dans à la fin du livre, vers les pages 140, j'ai vraiment reconnu. Et là, est connu le talent de... C'est la première fois que je le lis,
mais
cet auteur.
C'est un Patricia, type, enfin, il est comme ça dans la vie, je pense, c'est un type généreux, c'est un type bon, c'est un type... Ce livre est plein d'amour, l'amour circule entre les uns et les autres. Et ce type,
comme
en
entre
même
nous.
Temps, comme entre nous, exactement. Tous les membres du masque, on sait ce que c'est.
Ben voilà.
Mais quand on dit
c'est l'expression que j'allais utiliser.
Quand on dit que rien ne pousse à l'ombre des grands arbres, c'est faux, parce que son père, ça devait quand même être un sacré personnage, qui lui intimait des ordres absolument incroyables, qui lui disait, qui lui fichait une baffe tout en lui disant qu'il l'aimait. Enfin bon, ça n'a pas dû être toujours facile. Et en même temps, à la fois, d'ailleurs, on se dit heureusement que ce père, au moins, ne savait pas dessiner, parce que là, pour le coup, il a pu investir un domaine qui n'était pas paternel. Et le fait, je trouve très fort, d'en faire un personnage de roman, ça donne aussi un sens à son chagrin, parce que comme tu le disais tout à l'heure, Olivia, quand tu perds une mère que tu as 3 ans, c'est évidemment pas normal du tout. Perdre son père à 40 ans, ça a quelque chose d'assez... Enfin voilà, on entre dans... Voilà,
comment tu parles de ton père, Albin Michel Jeune?
Si je suis trop longue, tu me le dis.
Oui,
hein.
On a eu vraiment une poignée de minutes pour évoquer le roman numéro 11, gros roman, 450 pages, du britannique Jonathan Coe, traduit chez Gallimard par José Camoun. Et là, ce numéro 11, c'est celui à la fois d'une folle à l'oiseau qui a des tatouages, des piercings et un faucon qui est assez étonnant. Et puis c'est aussi le numéro du bus qu'emprunte la mère d'une des petites filles. C'est aussi le nombre d'étages souterrains d'un immeuble huppé. Bref, on a compris que ce numéro 11 sert de lien à plusieurs histoires qui sont toutes d'ailleurs aux accents très... très Ken Loachien, si j'ose dire, sur une Angleterre, dit-il, toujours plombée par une sous-classe de profiteurs qui vivent dans la culture tous les droits, mais zéro devoir. Oui, donc, est-ce qu'il faut le lire ou pas, Patricia?
Oui, il faut le lire. Et ce qui est extraordinaire, d'abord, il a des...
Finalement, j'ai fait d'excellents programmes.
La façon dont
en fait.
Il parle des femmes, moi, je trouve qu'il y a quand même des portraits de femmes absolument inouïe, avec à la fois elles sont belles, elles sont courageuses, il y a une humiliation chez lui qui est souvent muette.
Oui, ça c'est le côté Kenlochien, justement.
Ah mais absolument, et en même temps ce qui est extraordinaire, bon d'abord les nouvelles, moi j'adore les nouvelles, elles sont dans des genres très différents, parce que parfois il va toucher du côté du policier, à un autre moment ça peut être un peu un essai politique, ça peut être fantastique, et ce qui est extraordinaire c'est que ce type, je trouve qu'il y a une unité et une diversité dans son œuvre incroyable, parce que il est beaucoup moins drôle qu'il ne l'a été. Et en même temps, il était déjà ce qu'il... on retrouve, il y a déjà des... Je sais pas, dans Testament à l'anglaise, il y a déjà des choses de ce numéro 11, quoi. Il change tout en ne changeant pas. Moi, je trouve ça formidable.
Jean-Louis.
C'est absolument
Moi, je trouve ça... C'est certainement très bien de faire l'état des lieux de la société dans laquelle on vit pour un écrivain. Seulement, là, le problème, c'est que ça narre les années post-Tony Blair, que le Brexit a balayé tout ça et que du tout le livre est prodigieusement daté, vieilli, ça dépasse même la péremption, c'est devenu totalement anachronique. Ça l'était déjà même.
Tu veux dire, c'est un livre que tu n'as pas aimé?
Attends, mais c'est un livre formidable. Quoi, anachronique?
Il est complètement anachronique.
Bah, il est situé dans le temps. C'est pas pour autant qu'il est anachronique.
L'ouvrier de la 11e heure, je dirais.
Olivia.
Oui, mais alors, dans ce cas-là, Balzac s'est dépassé.
Bah, enfin, oui, c'est ça.
Non, je trouve pas ton argument convaincant.
Non, en plus, ça
convaincant.
Parle pas du tout d'une Angleterre dépassée, au contraire.
Moi, j'ai adoré, vraiment. Je l'avais pas lu et je suis très heureuse de l'avoir attrapé. Je trouve que c'est d'une dextérité parce que c'est à la fois grisant par la manière qu'il a d'inventer des personnages, des situations, de flirter avec le roman gothique, le roman policier, le roman d'aventure. Et sans jamais que ça ressemble à un roman à thèse, et en même temps c'est un portrait de l'Angleterre génial sur la fin des illusions, sur la fin de c'était mieux avant. C'est un livre de colère, moi je trouve, hein. Et qui interroge aussi beaucoup l'humour. À quoi ça sert de rire? Est-ce qu'on peut rire de tout? Moi je trouve que c'est un livre vraiment génial.
Arnaud,
je trouve que c'est un très très grand livre. C'est un grand livre politique qui commence en 2003 avec une affaire qui a ébranlé évidemment l'Angleterre. C'est la mort de ce docteur qui avait dit que on exagérait la
présence d'armes massives en Irak et qui avait dit, s'il y a la guerre en Irak, vous verrez, on me retrouvera mort dans un bois. Eh ben, ça n'a pas manqué d'arriver quand même. Et c'est vrai. Et donc, ça commence là, mais sur la manière d'un conte gothique avec une femme au faucon, c'est très, très étrange et qui installe les deux narratrices qu'on va voir grandir, évoluer dans cette société anglaise avec notamment une nouvelle qui s'appelle Le flic de la situation, qui est donc un flic situationniste qui dit qu'on ne peut résoudre une énigme qu'en connaissant la vie de son pays, donc la vie de l'Angleterre, et qui s'interroge sur le rôle de l'humour, à quoi sert l'humour. Il dit, on, maintenant, voilà, l'humour il est partout, à la matinale de France Inter, il n'y a plus une journée sans l'humoriste du jour, hein. Et c'est valable pour toutes les radios, toutes les télévisions. Maintenant, c'est le vernis, et il l'écrit très bien, Jonathan Coe, il dit, c'est le vernis qui enrobe les choses. C'est extraordinaire.
Numéro 11, c'est Jonathan Coe.
Sublime.
C'est chez Gallimard. Un conseil pour finir cette émission plus brève que d'habitude, Patricia?
De Jean-Louis Fournier, si vous le connaissez, ou On va papa, par exemple, avec lequel elle fémina, il y en a eu plein d'autres. C'est Des plats et des liés. C'est chez Keribus Édition. C'est absolument génial parce que c'est un livre qui lui ressemble, c'est-à-dire qui est tendre, drôle, qui est mélancolique, qui est inattendu.
Mais j'ai pas compris, c'est quoi?
Des plats et des liés. C'est-à-dire qu'il raconte ce qu'il aime. Il est gourmand. Il regrette les goûters de son enfance, mais il se réjouit à l'idée d'en avoir bientôt dans la maison de retraite dans laquelle il ira. Il adore la mousse au chocolat. Mais c'est vrai, tout est comme ça. Mais ça lui ressemble, je vous dis. Il a des principes culinaires. Si, c'est très bien, je t'assure.
Et le
n'en dégoûte pas les autres si ça
ne
te plaît pas.
C'est...
Des non, plats et des liés. Et c'est publié chez Keribus Édition.
Le conseil d'Olivia.
Les chroniques de François Sagan publiées au livre de poche, son fils Denis Westhoff, a pour la première fois rassemblé tous les articles qu'elle a écrits pour les journaux.
Il faut dire que c'est les chroniques, y compris les livres qui contenaient déjà des chroniques, c'est-à-dire il y a aussi bien avec mon meilleur souvenir que...
Il y a des articles géniaux, notamment « Comment j'ai raté l'interview de Jeanne Moreau ». On avait ici parlé de « Comment j'ai raté l'interview de Catherine Deneuve » de Emmanuel Carrère.
Un très bon portrait de Catherine Deneuve et un de Depardieu aussi.
Depardieu, Saint-Laurent et une petite nouvelle que je ne connaissais pas, qui avait été publiée dans le L, qu'elle avait envoyée avant même la parution de « Bonjour Tristesse », qui est géniale, où elle raconte sa rencontre avec un clochard, qui est en fait un homme qui avait une femme, des enfants, et qui a tout quitté parce qu'il voulait la liberté. C'est Sagan avant Sagan. C'est génial, ce livre de poche.
Jean-Louis.
Moi, je vous conseille un auteur norvégien qui s'appelle Lars Mytting. C'est son premier livre traduit. C'est un auteur de polar, mais là, c'est pas un polar. Il a fait un essai sur l'homme et le bois. C'est le rapport de l'homme avec son tas de bois.
C'est un best-seller mondial.
Absolument.
Ouais,
c'est un best-seller mondial.
Il
est traduit dans 20 pays. Il a eu le British Non-Fiction Book of the Year cette année. C'est le plus grand livre.
Of the Year.
2016.
Et donc. Et tout le livre, il est devant son tas de bois.
Oui. Il dit que l'homme a un rapport affectif avec son tas de bois, comment il le fend, comment il l'entrepose, comment il le fait sécher.
Moi, j'ai été intéressée aussi.
C'est un gros livre. C'est un gros livre.
Oui, c'est un gros livre. Je ne l'ai pas amené parce que j'étais sûr que vous me le piqueriez, donc je ne l'ai pas amené. Mais c'est absolument prodigieux et c'est magnifiquement écrit.
Le conseil
d'Arnaud. Aux éditions Gaïa, je ne sais pas si
c'est un gros et grand livre dans lequel je suis plongé depuis plusieurs jours, qui est une biographie de François Le Lyonnais, qui a été le fondateur et le président de l'Oulipo avec Raymond Queneau. Et ce qui est génial, c'est que c'est fait par quelqu'un qui s'appelle Olivier Salon, qui a architecturé des textes existants sous la forme d'un puzzle. Donc c'est un livre ouloupien sur le fondateur de l'Oulipo. C'est magnifique, c'est une révolution copernicienne de la lecture. Vous êtes là, il y en a dans tous les sens. Et j'ai découvert des histoires mais absolument magnifiques sur la vie de cet homme. C'est un très grand livre.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Patricia Martin, Olivia de Lamberterie, Jean-Louis Aisine et Arnaud Vivian pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et ce soir au Sachet Guitry à la technique Stéphane Desmon, Xavier Lévesque et Stéphane Touvenin. La réalisation était de Didier Lagarde. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, c'est le jeudi 1er décembre. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma et l'autre au théâtre. On parle de films dans une semaine. On parlera à 20h dans une semaine, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.